Alors, on va proposer ici quelques considérations sur la francophonie. On en a déjà parlé en cours et nous avions abordé la question du français en Amérique du Nord. Alors, quelques considérations générales par rapport au français en Amérique du Nord. Évidemment, on pense immédiatement, quand on pense au Canada, on pense au Québec. Alors, bien entendu, par rapport aux francophones d'Amérique du Nord, il y a certes le Québec, mais si on reste au sein du Canada, au-delà du Québec, on aura aussi l'Acadie, ce que l'on appelle aussi les provinces maritimes. C'est finalement par là que vont arriver au Canada les premiers Français. Il existe également à l'ouest du Québec une autre province où le français est également présent, c'est l'Ontario. La situation est tout à fait différente en Ontario par rapport au Québec, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, on pourrait, si on s'étend un peu, si on va au-delà du Canada et on reste en Amérique du Nord, il y a la Louisiane, donc la Louisiane est ce territoire d'Amérique du Nord où la situation de la langue française est assez complexe et où la présence de locuteurs francophones est, selon les experts et selon les études qui se sont faites dernièrement sur place, en importante régression. On pourrait encore ajouter la question du français en Haïti et aux Antilles, qui, pour ces deux cas-là, les Antilles françaises bien entendu, appartiennent à des configurations historiques et sociolinguistiques tout à fait différentes. Je ne m'en occuperai pas ici, ce sera un sujet beaucoup plus vaste qu'il faudrait traiter séparément. Donc, dans le cadre de ce cours, de cette leçon, nous allons nous intéresser principalement au Québec. Alors, avant de parler des questions linguistiques, donc du français au Québec, il est important de comprendre où se situe le Québec au plan géographique et finalement comment la langue française est arrivée là-bas. Donc, on aura besoin à la fois d'éléments géographiques, d'éléments historiques et de quelques traits aussi de société. Alors, pour revenir aux éléments géographiques, le Canada, comme deux autres pays que je cite à titre d'exemple, mais qui appartiennent aussi à la francophonie, donc deux autres pays francophones, la Belgique et la Suisse, le Canada est lui aussi un État fédéral. Il compte 10 provinces et des territoires du Grand Nord qui n'ont pas vraiment le statut de province. Alors, le Québec est la province sur le plan de la superficie qui est la plus grande, c'est la province la plus étendue. On considère qu'elle s'étend sur 1,5 million de kilomètres carrés. Ce n'est pas pour autant la région, enfin la province, c'est le terme qui correspond à la division géographique. Ce n'est pas pour autant que c'est la région la plus peuplée. Le Québec est dépassé par son voisin, l'Ontario, auquel revient la primauté au niveau du nombre de millions d'habitants. Alors, si on vient maintenant au terme Québec, le terme Québec renvoie à la fois au nom de la province dont on vient de parler, mais le Québec, parfois on l'oublie, c'est aussi le nom de la ville qui en est la capitale, qui est, je parle bien ici, de la province et pas du Canada. C'est bien entendu pas Québec qui est la capitale du Canada, ni même Montréal, comme on n'a pas toujours, mais souvent tendance à le croire. Alors, la ville de Québec compte environ 750 000 habitants, agglomération urbaine. Au plan linguistique, la distinction par rapport justement au terme Québec se fait par la présence ou l'absence d'articles. Donc, quand j'utilise Québec tout seul, il habite à Québec, Évidemment, ici, on est en plus aidé par la préposition, mais Québec non précédé d'article renvoie à la ville. Le Québec, avec l'article défini devant, renvoie quant à lui à la province. Une autre précision linguistique par rapport aux citoyens, par rapport aux habitants. Alors, Québécois pourrait être ambigu. En réalité, on parle des Québécois en relation aux habitants de la province, donc de toute la province. Pour désigner les habitants de sa capitale, qui, je rappelle, a été fondée il y a très longtemps, en 1608, on entend souvent dans le langage courant les gens de Québec. D'accord. Évidemment, ce sont des expressions que l'on va entendre quand on sera sur place. Hein. C'est plutôt les locaux qui utilisent ces expressions. En ce qui concerne la situation, le statut de la langue française au Canada, alors, du point de vue du statut légal et juridique de la langue, disons que le Canada est un pays officiellement bilingue. Il est officiellement bilingue au plan fédéral, donc au niveau fédéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça ne veut pas dire que dans toutes les provinces du Canada, on a une situation de bilinguisme ou que les deux langues en question, vous avez bien compris ici qu'il était question de l'anglais et du français, ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser les deux langues indifféremment sur le territoire du Canada. Cependant, ce bilinguisme officiel au niveau fédéral signifie que du point de vue des institutions qui concernent tout le pays, le bilinguisme est officiel. Au niveau provincial, le statut, en revanche, varie d'une province à l'autre. Le Québec est officiellement aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, le Québec est aujourd'hui officiellement unilingue français avec des lois, notamment la loi 101, qui sont le résultat finalement de batailles pour maintenir le français et pour être arrivé à avoir cette situation de français unilingue au plan officiel. Je rappelle bien, une situation de langue officielle n'est pas le reflet d'une situation d'usage de la langue dans des territoires définis. Le Nouveau-Brunswick, quant à lui, est officiellement bilingue, anglais et français. Alors, pour les repères historiques, mais je vous renvoie au document annexe, au PowerPoint, parce que ce sera un peu long de revenir là-dessus. Bon, je vais juste reprendre quelques passages. Disons peut-être le moment principal, c'est l'arrivée de Jacques Cartier, qui va en quelque sorte découvrir le Canada. Et là, nous sommes au 16e siècle, et précisément, la date de l'arrivée remonte à 1534. C'est ensuite Samuel de Champlain qui va fonder en 1608, et j'évoquais tout à l'heure, la ville de Québec. Alors, l'essentiel du peuplement va se produire dans la seconde moitié du XVIIe siècle, et c'est la langue finalement de cette époque qui deviendra la base historique du français que l'on parle aujourd'hui encore au Québec. Ce qui explique que quand on étudie du point de vue linguistique le français du Québec, on trouve des tournures qui aujourd'hui en français de France n'existent plus, mais ce sont en réalité des héritages parce que ces formes seraient considérées comme archaïques en français d'aujourd'hui. Je pense par exemple à la conjugaison du verbe aller, qui à la première forme, à la première personne du singulier de l'indicatif présent, il est tout à fait normal au Québec de utiliser la forme je vais. Alors si aujourd'hui j'entends un locuteur français, donc je me réfère au territoire de la France, utiliser cette tournure, bon, elle sera plutôt rare, Toutefois, ce n'est pas impossible de la rencontrer, mais le locuteur va être associé à travers ce choix linguistique à une situation sociale bien précise. On va avoir tendance à considérer que ce sera du français que l'on classe parfois comme populaire, parce qu'on se rend compte qu'il y a un écart par rapport au français à la norme. Toutefois, ce sont des formes, si on aborde le problème par le biais d'une vision diachronique, ben on se rend compte que ce sont des formes qui existaient autrefois en français standard, aussi en France. Et donc, si aujourd'hui ça nous semble étrange quand on entend un Québécois dire « je vais », en réalité, on ne peut pas lui donner du tout la même portée que si je l'entends en France. Pour un français du dans le français du Québec, pour un locuteur de français québécois, cette tournure relève du standard québécois. N'oublions pas que le Québec, comme la France, ont des outils, des instruments linguistiques, c'est-à-dire des dictionnaires, des grammaires. D'ailleurs, vous verrez dans le PowerPoint, je renvoie au TLF que vous connaissez pour la langue française. Eh bien, on a au Québec aussi un outil similaire qui sont les trésors de la langue française québécoise. Et donc, évidemment, on ne peut pas faire les mêmes considérations par rapport à des usages qui, sur un territoire, vont avoir une portée, n'auront pas du tout la même portée si je les rapporte en France. Certains ont complètement disparu, hein. Certains usages lexicaux que l'on retrouve aujourd'hui au Québec n'existent pas en France, n'ont peut-être jamais existé parce que là, par exemple, sur le lexique, ce n'est pas nécessairement des archaïsmes. Il y a d'autres phénomènes qui expliquent la diversité du français du Québec par rapport au français de France. Alors, je reviens donc à ce passage important, disons Samuel de Champlain, au début du XVIIe siècle, et la présence française au Québec va commencer à devenir importante à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Bien, vous verrez ensuite d'autres dates importantes telles que le traité de Paris en 1763, et là les choses commencent à prendre une tournure beaucoup plus délicate, où la France abandonne à l'Angleterre ses colonies nord-américaines. Alors, le territoire passe aux mains des Britanniques. On verra par exemple un bilinguisme de fait dans les cours de justice, et on verra qu'il va y avoir différents passages, différents tiraillements entre les Français, les Anglais et la question justement de la langue. Mais il faudra arriver finalement au XXe siècle pour que le contact avec le français de France renaisse peu à peu. Alors, un des moyens importants va être la radio, hein, et l'instruction qui va se démocratiser, et l'instruction en langue française qui va permettre justement d'avoir de nouveaux locuteurs de langue française au Québec. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage sur la question justement des différents passages, mais sachez qu'on va tout de même aboutir à cette loi 101 qui va avoir des effets justement sur la situation actuelle du français au Québec. Pourquoi nous avons des locuteurs qui tiennent autant à la langue française? Mais c'est parce que derrière, il y a aussi eu des mesures politiques, des lois qui ont fait que le français est ce qu'il est aujourd'hui. Je pense par exemple à l'obligation des enfants d'immigrés de fréquenter les écoles francophones, le français comme langue du monde du travail, l'affichage commercial et ainsi de suite. Alors, on laisse de côté la question historique. Si vous voulez approfondir, j'ai mis un lien dans le PowerPoint que je joindrai à cet enregistrement pour ceux qui sont curieux. C'est pas du tout une obligation, mais enfin, pour ceux d'entre vous qui voudront approfondir, il y a la possibilité d'aller voir ce lien. Je vais revenir maintenant aux aspects linguistiques. Alors, de nombreuses études, quand on travaille sur la variation et quand on travaille sur la francophonie en particulier, eh bien, de nombreuses études portent sur le français du Québec. Je rappelle, ce n'est pas la seule forme de variation du français en Amérique du Nord. Et il y a aussi des travaux assez importants qui sont faits sur l'Acadie, dont je ne parlerai pas ici. Alors, la variation, elle se décline dans le français du Québec sous différents aspects. La variation phonique, et c'est souvent ce qui saute tout de suite, pas aux yeux, mais aux oreilles, à la fois à travers les phonèmes qu'à travers les patrons intonatifs. Hein. Donc, parfois, on est un peu dérouté plus que par la différence de prononciation au sens des phonèmes par rapport aux patrons intonatifs, aux déplacements que l'on va pouvoir entendre. Donc, voilà. Alors, par rapport à ça, vous aurez la possibilité de faire une écoute où vous aurez l'enregistrement d'un étudiant québécois. Donc, c'est un étudiant, je veux dire, c'est un français d'aujourd'hui, absolument, une langue française d'aujourd'hui, telle qu'elle est parlée au Québec. C'est une personne jeune, donc on ne peut pas envisager qu'il y ait des traits marqués par rapport à l'âge. C'est une personne instruite, donc on peut imaginer que c'est réellement le français qu'on peut entendre aujourd'hui si on va au Québec. Ce n'est pas une situation marginale, parce qu'évidemment, en sociolinguistique, plus on s'écarte des centralités, plus on va avoir des variétés accentuées. Je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes qui vivent dans des endroits où le contact, la mixité, entre personnes est plus limitée. Donc ici, on a vraiment, le cas d'un jeune homme instruit et donc ça nous donne le reflet d'un Français du Québec d'aujourd'hui. Évidemment, dans une situation d'enquête, donc ce n'est pas tout à fait une situation spontanée. Mais enfin, voilà, là aussi, je renvoie, vous verrez, aux travaux de T et Ali sur la variation du français parlé dans l'espace francophone. Alors, je disais donc, les traits de variation, eh bien, vont toucher aussi bien l'aspect phonique que l'aspect morphologique, que l'aspect syntaxique et que l'aspect lexical. Évidemment, c'est surtout dans un premier moment d'écoute, c'est l'aspect phonique qui va être le plus remarqué. Alors, pour le lexique, ben, il y a vraiment beaucoup de travaux. Je citais tout à l'heure le TLF du français québécois. L'Université de Laval propose un site qui est vraiment riche en descriptions lexicales et pas seulement. Alors, si nous venons maintenant à quelques traits, disons, majeurs, eh bien, par exemple, pour les aspects phoniques, une caractéristique saillante du français du Québec dans le domaine des phonèmes consonantiques est ce que l'on appelle, de manière un peu plus technique, l'assibilation des dentales. Bah, qu'est-ce que ça veut dire, l'assibilation des dentales? Ça veut dire que les sons de et te, dans certains contextes, ce n'est pas systématique, je parle de contexte phonétique, et en particulier donc quand ces consonnes dentales sont suivies d'une voyelle antérieure, telle qu'un i, elles vont être prononcées de manière affriquée, là aussi c'est un peu technique. Et donc, cela signifie que le D et le T vont devenir des Z et des Ts. Donc, au lieu de dire, on va entendre dire. Voilà. Au plan des voyelles, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est pas, notre objectif ici n'est pas de faire une analyse approfondie des traits linguistiques caractéristiques du français du Québec. On n'est pas, vous n'êtes pas des phonéticiens. Ce qui m'importe, c'est de vous montrer juste des éléments comme ça à titre d'exemple. Alors, sur le plan vocalique, je pense au digramme OI en français de France, mais en français d'Europe et dans la majorité des Français, le OI des variations du français, le OI, vous le savez, prononcé OUA, moi. Eh bien, en français du Québec, ce sera « ouais ». En réalité, tout à l'heure, je parlais d'archaïsme. Ben, il faut savoir que, justement, cette prononciation existait aussi autrefois en français de France. En ce qui concerne la syntaxe, ben, je vais juste vous donner un trait qui concerne les interrogations. Voilà, on a une caractéristique du français du Québec, c'est l'interrogation par « tu ». Tu comme le pronom sujet, mais qui n'a rien à voir en réalité avec le pronom sujet, parce que c'est une évolution de l'interrogation en ti, que l'on connaissait aussi en ancien français, et qui est restée dans certaines formes, pas pour toutes les conjugaisons, pas pour toutes les personnes de la conjugaison, mais en tout cas pour les trois premières du singulier et la troisième du pluriel, on rencontre cette interrogation en « tu ». Donc, « je viens-tu »,« tu viens-tu »,« tu m'aimes-tu », et ainsi de suite. Une autre remarque que je pourrais faire toujours par rapport à la conjugaison, eh bien, c'est le verbe « aller », je l'évoquais tout à l'heure, dans sa forme de l'indicatif présent en première personne du singulier, qui donne « je vais ». Et puis le lexique, bah le lexique, ce serait bien vaste, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à signaler. Je pense par exemple un petit élément peut-être plus anecdotique, c'est ce que l'on appelle les sacres. Alors les sacres au Québec, ce sont des jurons qui en réalité s'emploient parfois aussi comme des interjections quand on est un peu énervé ou surpris. Et leur particularité, c'est qu'ils viennent des termes de la sphère religieuse et qui étaient considérés justement comme blasphématoires. Et si vous voulez, ça se passe dans d'autres langues aussi, pour éviter un peu de reprendre le terme à l'identique, eh bien, on va avoir des modifications phonétiques. Donc, par exemple, Christ va être Chris, qui est très courant. Un autre sacre qui vient justement de ces objets religieux, c'est tabernacle, qui va être prononcé de différentes manières et qui est très souvent utilisé, par exemple, dans sa forme de tabernacle. Voilà, donc évidemment, si vous avez envie d'approfondir le français au Québec, il y a beaucoup de documents, mais c'est pour nous donner une première approche, un premier aperçu de ce qu'est le français dans le monde, et à titre d'exemple ici, le français au Canada, et en particulier au Québec.